喂，下回，下回。No hay vida más arrastrada que la del pobre correro, con la picana en la mano, picando al buey delantero.
Mesdames, Messieurs, bienvenue sur l'antenne d'Aligre FM pour l'émission Au cœur du tango. Chaque semaine, c'est une heure de discussion et d'écoute autour de la culture du tango. Et c'est sur Aligre FM 93.1, une émission co-animée avec Sylvain Berthaud
et Nathalie Perrin.
On est très heureux et merci beaucoup de nous écouter, de votre fidélité. Merci aussi à Armand Gury qui est à la technique ce soir et qui nous accompagne pour la réalisation de cette émission.
Alors, chère Nathalie, j'ai choisi aujourd'hui un titre pour l'émission et ça vous laisse un petit peu perplexe.
Oui, bah oui, la révolution descarienne. Est-ce que ça va parler à nos auditrices et nos auditeurs? Telle est la question.
Alors, ça vous paraît pour l'instant sûrement un peu obscur, mais j'en suis assez content. Je vais m'expliquer. Vous vous souvenez déjà qu'à la dernière émission, j'ai indiqué que j'avais fait une erreur. Car j'avais parlé de Juan de Caro. En fait, il s'agit de Julio de Caro. Je ne sais pas ce que j'avais en tête, mais en tout cas, je n'avais pas le bon prénom. Alors, cet adjectif descarienne que j'utilise dans le titre de notre émission, Révolution descarienne, il se réfère à de Caro. Et donc, pas seulement à Julio, mais aussi à son frère Francisco.
Oui, parce que l'histoire a retenu plutôt Julio de Caro, mais les études montrent que les deux frères Julio et Francisco ont beaucoup travaillé ensemble et qu'ils ont tous les deux apporté à la musique du tango.
Oui, alors déjà, parler de révolution descarienne, ça permet de poser qu'on va parler des deux frères de Caro, sans rentrer dans un débat sur la contribution de Julio et de Francisco.
Alors, pourquoi ce drôle d'adjectif descarienne? Pourquoi pas la révolution des frères de Caro?
Et ben justement, parce que cet adjectif existe dans la langue argentine. Descarenea, j'ai traduit par descarienne, c'est un adjectif qui existe dans cette langue. Et ça, c'est quand même un signe. Dans une langue, quand il y a un adjectif qui est créé à partir d'un nom de famille, ça veut dire que le personnage a été particulièrement important. Hein, si je vous dis un discours aux accents gauliens ou un système kantien, puisque vous êtes philosophe, on comprend tout de suite que De Gaulle ou Kant sont des gens importants. Il s'agit de personnes qui comptent dans leur discipline. Eh bien, en Argentine, on va parler de période descarienne.
Et donc, par conséquent, annoncer qu'on va parler de révolution descarienne, c'est que le rôle de de Caro dans le tango, eh bien, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est du lourd, visiblement. Et dans ce cas, une révolution, ça n'est pas anodin non plus.
Eh oui, une révolution descarienne, c'est vraiment un titre fort. Mais justement, l'intervention des frères de Caro, Julio de Caro et Francisco de Caro, dans la musique du tango, c'est un tel changement qu'on peut le qualifier de révolution. Et en plus, c'est une révolution qui a laissé des traces absolument durables. D'ailleurs, les principes musicaux mis en place par Julio de Caro ont encore une influence. En fait, il a posé les fondations du tango que nous connaissons.
Et c'est à un point tel, et ça je l'ai appris, que le jour du tango en Argentine, c'est le 11 décembre. Et le 11 décembre, c'est la naissance de Carlos Gardel, dont on a déjà parlé ici, mais aussi de Julio de Caro. Ce sont donc deux figures fondatrices du tango qui ont été choisies pour fixer cette fête du tango argentin.
Voilà. La révolution descarienne, ça fait donc un titre bien sérieux.
Alors oui, effectivement, on ne voudrait pas impressionner nos auditrices et nos auditeurs. Alors pour dédramatiser, voilà un morceau de l'orchestre de Julio De Caro, Mala Junta, les mauvaises fréquentations. Et ceux qui l'ont déjà entendu en bal se souviennent sûrement des rires et des sifflements qui se joignent à cette musique.
Oui, on n'aura pas du tout l'impression d'une musique très sérieuse. Alors c'est la première version enregistrée, c'est une musique instrumentale, même si effectivement il y a des rires et des sifflements. La composition est de Julio De Caro et du bandoneoniste Pedro Lorenz. On en reparlera, formidable instrumentiste et chef d'orchestre. Et un an plus tard, il y aura une version chantée qui suivra avec des paroles de Juan Velich.
Alors en 1930, Roberto Arlt,
un journaliste et écrivain argentin. Oui.
Tout à fait, écrit « Mala Junta era de lo más carcelario y ampón que conozco en milongas. Tango demasiado lindo para ser tango, tango donde todavía persiste el olor de fiera y tumulto bronco de la leonea. »
Alors, je vais me risquer à une traduction. Mala Junta était l'une des pièces les plus carcérales et les plus crapuleuses que je connaisse dans les milongas. Un tango trop beau pour être du tango. Un tango où persiste encore l'odeur du fauve et le tumulte rugueux de la bagarre.
Bon, alors,
on écoute Mala Junta, Julio De Caro.
Thank you.
De retour sur Aligre FM, au cœur du tango, nous écoutions Julio de Caro Malajunta. 1927, nos auditrices et auditeurs avaient peut-être en tête une des très belles versions d'Osvaldo Pugliese. Il l'a enregistré 4 fois entre 43 et 89, c'est pas rien. Et ce morceau devait particulièrement lui plaire. Et ce n'est pas par hasard, Pugliese a toujours reconnu ce qu'il devait à De Caro. Nous sommes dans la révolution des cariennes, Sylvain Berthaud.
Absolument. Alors revenons à la musique qu'on vient d'entendre, hein, chère Nathalie, même si les rires et les sifflements ont pu vous surprendre, je ne crois pas que vous ayez trouvé cela vraiment révolutionnaire. Mais c'est parce que nous avons désormais complètement assimilé ce qu'il a apporté et ça nous semble maintenant complètement normal.
Oui, alors pour comprendre, il va nous falloir revenir vraiment en arrière et nous replonger dans cette époque de la Guardia Vieja, la vieille garde.
Tout à fait. Alors Julio de Caro naît à Buenos Aires en 1899.
Donc au moment où le tango apparaît.
Oui, mais rien à voir, hein. Les naissances sont concomitantes, c'est tout. Certes, ses parents sont musiciens, mais des musiciens sérieux, chère Nathalie.
Voilà.
Le tango, pour eux, c'est une musique pour des vauriens et des dépravés. Les deux Caro sont des émigrés italiens et le père a été directeur du conservatoire à la Scala de Milan, le grand opéra. La mère est chanteuse d'opéra. Alors chez les deux Caro, la musique, c'est de la musique classique européenne. Et c'est pas une plaisanterie. La musique, c'est sérieux, ça se travaille et ça fait partie d'une éducation.
D'ailleurs, son père sait que c'est une bonne éducation, hein, ce qu'est une bonne éducation. Il a déjà choisi le métier de son fils. Julio sera médecin. Oui, c'est amusant comme on entend souvent ce genre d'histoire, même encore aujourd'hui, avec des parents qui savent exactement le métier de leur enfant.
Ouais,
mais ça marche pas toujours, hein. C'est un peu le problème.
Non, hein, ça me rappelle moi une chanson de Brassens, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Philistin, épicier, vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus. Poète,
voilà,
c'était le grand Brassens qui racontait cette histoire.
Et c'est un peu pareil avec Julio de Caro et son frère Francisco, hein. L'histoire a retenu ces deux-là, mais en vérité, les parents avaient quand même 12 enfants. Peut-être qu'il y a eu un médecin dans les 10 autres de la famille de Caro.
Peut-être. Alors, c'est un peu la faute du père aussi, hein. Pour devenir médecin, il voulait donner une bonne éducation bourgeoise. Et à l'époque, pour avoir une bonne éducation, il fallait connaître la musique. Donc le père décide que chacun de ses enfants devra étudier un instrument, le piano pour l'un, le violon pour l'autre, et les voilà inscrits au conservatoire. Bon, quelques années plus tard, Julio et Francisco obtiendront tout de même d'inverser leurs instruments. Donc Julio de Caro deviendra violoniste, son frère Francisco deviendra pianiste. Mais surtout, ils vont suivre au conservatoire, sous la direction de leur père, des études poussées de solfège et de composition.
Bon alors, il se met à composer des tangos et c'est la révolution déjà, c'est la révolution des cariennes.
Pas si vite. Alors, c'est sans compter sur le père, hein, on l'a dit, il voulait avoir un fils médecin, son fils Julio devait être médecin. À 16 ans, Julio joue comme second violon dans un groupe folklorique qui profite d'une occasion. Son père n'apprécie pas, hein, c'est pas comme ça qu'on devient médecin, c'est pas en étant un violonneux dans un groupe local. Et Julio se voit confisquer sa paye et surtout il se retrouve puni pendant 8 jours au pain et à l'eau.
Hein. Bon alors, et ça a été efficace de le punir ainsi?
Alors ce genre d'attitude parentale est souvent contre-productive, hein, c'est une expérience aussi. À 18 ans, le grand musicien de tango Roberto Firpo, on en avait déjà parlé,
oui,
prête son violon à Julio de Caro. Julio de Caro joue en public le fameux thème de la Comparsita et il a un grand succès. Hein, il joue ensuite pour Arolas, hein, vous en souvenez aussi, Firpo et Arolas sont les grandes stars de l'époque de Gardel, hein, de Carlos Gardel.
Oui, et le père alors, il en dit quoi de tout cela?
Le père, ni une ni deux, hein, vous vous en doutez bien, dès qu'il est au courant, il attend Julio de Caro de pied ferme à la porte de la maison, médecin ou musicien. Mais l'un ou l'autre, Julio a choisi, c'est clair, il est musicien, son père le fout dehors. d'accord, ils ne se reparleront que 20 ans plus tard, imaginez. Et son frère Francisco va subir rapidement le même sort, hein, tous les deux dehors.
Donc ça y est, c'est la révolution des Cariennes qui est en marche.
Eh bien, on y arrive, effectivement, les deux frères vont commencer à frapper fort en matière musicale. Alors commençons par parler de ceux qui sont là, hein, bien en place dans cette année 1917. On vient de le dire, Roberto Firpo. Roberto Firpo, grand violoniste, c'est une des grandes figures du tango de l'époque. Il commence à préfigurer ce que sera l'époque des Cariennes.
En 1917, il est d'ailleurs le premier à enregistrer un tube du tango, la fameuse comparsita, dont on a déjà parlé ici aussi.
Tout à fait. Alors, tout le monde a la comparsita dans l'oreille. Je ne vais pas vous faire écouter la comparsita de De Caro. Il y a un enregistrement qui est resté, mais qui est de très mauvaise qualité. Je ne voudrais pas décourager les auditrices et les auditeurs. Mais la même année 1917, donc on est vraiment à quelques mois de la toute première version, l'orchestre du pianiste Alberto Alonso et du bandoneoniste Minotto Di Cicco enregistre la comparsita. L'enregistrement est bien mieux conservé que celui de Firpo. On est dans d'un style qui est tout à fait analogue. Je vous propose de l'écouter, mais soyez bien attentifs au nombre et surtout au rôle des différents instruments.
On écoute alors à l'instant Alonso Minotto, la comparsita. Thank you. De retour sur l'antenne d'Aligre FM et au cœur du tango. Alors, on a une musique ici caractéristique de la vieille garde. Hein. Nous écoutions Alonso Minotto, La Comparsita 1917. Hein. Donc, vieille garde, Guarda Vieja. Hein. Alors, typique, pourquoi ? Parce que c'est un quartet, il y a peu d'instruments, c'est une formation modeste. Mais surtout, on a vraiment l'impression d'écouter une rengaine, un petit air facile à apprendre. C'est dû au fait que tous les instruments jouent presque le même morceau, tous ensemble. Il y a des arrangements vraiment minimalistes. Hein.
Eh oui, c'est pas une surprise. Hein. À l'époque, les musiciens étaient souvent autodidactes, pas forcément d'un grand niveau sur leur instrument. La plupart jouent à la feuille, c'est-à-dire à l'oreille. Hein, ils ne savent pas lire la musique, ils n'ont pas eu d'éducation en solfège.
Oui, c'est là où il faut rendre hommage au père de De Caro. Il a donné à ses fils une vraie, une véritable éducation musicale classique et ils connaissent tous le solfège, tous les deux, le solfège et la composition.
Exactement. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'écouter ce que fait Julio De Caro avec le même thème de la Comparsita. On est une dizaine d'années plus tard, hein, c'est un peu triché, on y reviendra. Et, il a un sexteto, donc on vient d'entendre une Comparsita avec quatre instruments. Là, on passe à six instruments. C'est donc pas vraiment beaucoup plus, et pourtant, vous allez voir, comparé à ce qu'on vient d'écouter, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, une petite rengaine, là, vous allez avoir la sensation d'entendre réellement un orchestre.
Et comment fait-il ?
Alors, ce qu'il fait, il a cette culture classique, donc il écrit les arrangements, il les écrit pour chaque instrument, de façon à ce que chaque musicien puisse servir la mélodie, mais aussi pour que chaque musicien puisse s'exprimer individuellement. C'est-à-dire que un musicien va pouvoir être à un moment donné sur un accompagnement qui va être écrit avec des chants, des contre-chants. Et puis, à d'autres moments, il va avoir des périodes de solo, il va pouvoir se mettre en valeur. Alors évidemment, ce n'est plus pour un petit orchestre ou pour un petit bal de village. Il faut un certain niveau, il faut des musiciens solides, qui aient une vraie formation, qui sachent lire et qui maîtrisent les techniques d'interprétation. Par exemple, pour les violons, De Caro écrit des parties de mélodie avec l'archet, mais aussi des pizzicati, hein, les pizzi où le violoniste doit pincer les cordes.
En plus de cela, les frères De Caro instaurent la circulation du thème, comme on peut développer un thème en musique classique. Il est amplifié ou repris par un instrument différent, dans une tonalité différente, rien à voir avec ce qu'on vient d'écouter précédemment. Cette prise de parole de chaque instrument est aussi très inspiré par le jazz, populaire à cette époque.
Eh oui, tout à fait. Bon, assez parlé, ce que je vous propose, c'est le mieux, c'est de comparer. Donc d'écouter le sexteto de Julio De Caro dans la Comparsita, c'est un enregistrement de 1930. On écoute la Comparsita.
Thank you.
J'adore. La comparaison est complètement éclairante. Hein. On est passé de la version 1917, hein, une chansonnette finalement pour enfants, à une véritable œuvre musicale. Hein. Là, il n'y a pas qu'une seule mélodie. Il y a des chants, des contre-chants, il y a des interprétations très variées, très rythmiques parfois, très mélodiques. Un instrument prend la place, puis un autre. Hein. Il y a juste deux instruments qui ont un rôle particulier. La contrebasse qui reste assez discrète et qui assure une base rythmique. Et puis le piano qui joue à faire des ponctuations ou des liaisons entre les groupes d'instruments.
Oui, c'est comme Malajunta qu'on a entendu au début. Il y avait même un instrument en plus avec les rires et surtout le sifflement. Tout cela nous semble tellement naturel maintenant, hein, surtout quand on va en bal, c'est d'entendre la différence entre la comparsita de 1917 et celle de 1930 à l'instant qui nous permet de réaliser le chemin parcouru.
Eh oui, mais grâce à Julio De Caro, hein, on le parcourt très rapidement ce chemin. On part d'une musique qui est presque rurale, hein, puis des bas-fonds avec des musiciens peu formés. Et puis, on débouche 10 années plus tard sur une musique savante, écrite, complexe. Et ça nous semble normal, c'est ce que je disais au début de l'émission.
Oui.
À l'époque, c'est une révolution qui maintenant s'impose par son évidence, et une révolution qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Le tango, à partir de Julio De Caro, c'est de la grande musique, tout simplement.
Oui, c'est pour cela qu'on considère De Caro comme une rupture d'époque. Oui. On passe de la guarda vieja, hein, la vieille garde, pardon, à la guarda nueva, la nouvelle garde. Même, on va parler aussi de décarisme. Julio De Caro est considéré comme le père de la Guardia Nueva.
Oui, un personnage vraiment essentiel. Alors, je trouve l'exemple de la comparsita particulièrement évident, mais c'est vrai que c'est un peu triché, puisqu'il y a quand même 12 années, finalement, d'écart entre les deux versions. Les évolutions musicales de Julio De Caro sont très rapidement reprises, en réalité. Les musiciens sont de mieux en mieux formés durant cette période de transition vers la nouvelle garde. On a un mouvement qui est finalement très rapide. Hein. Ça va durer quelques années. L'écriture des œuvres elle-même va être de plus en plus complète avec des principes de composition. Et pourtant, même si on prend un enregistrement de la même année et qu'on le compare, l'enregistrement de Julio De Caro semble toujours en avance.
Alors, vous avez choisi, Sylvain Berthaud, un morceau et un compositeur qui nous sont chers à tous les deux. On ne s'en cache pas, il s'agit de Recuerdo. C'est la première composition publiée d'Osvaldo Pugliese en 1924. Et c'est juste un chef-d'œuvre. Bon.
Ah oui, Pugliese, c'est un de nos chéris.
Voilà, on y reviendra. Le jeune Osvaldo est encore mineur quand il l'écrit. C'est donc d'abord son père qui le publie sous son nom avant de le redonner à son véritable auteur.
Alors, Recuerdo, c'est vraiment une œuvre absolument magistrale, complètement novatrice. Astor Piazzolla disait que c'est un tango de l'an 3000.
Oui, d'ailleurs, Osvaldo Pugliese et Astor Piazzolla le joueront ensemble dans le fameux concert d'Amsterdam en 1989 que j'adore.
Ouais, mais 89, voilà. Revenons en 24 plus.
Voilà, la chanteuse Rosita Montemar a été la première à interpréter Recuerdo à sa publication en 1924, mais il s'agissait de concerts.
Tout à fait. Alors, le premier enregistrement, c'est 1926. Julio De Caro découvre ce tango du jeune Pugliese, hein, Osvaldo Pugliese, et il décide de l'enregistrer. Il déclare d'ailleurs, hein, et je trouve ça magnifique, je voudrais le citer, je reprends, mais notre Recuerdo a marqué une voie nouvelle dans la composition du tango. Il implique une conception moderne dans sa structure harmonique, dans le développement inattendu de sa ligne mélodique, dans la couleur de ses sons, dans la pertinence des changements de tonalité, dans ses arpèges bienvenus, dans l'originalité de sa variation. C'est un des chefs-d'œuvre de notre tango qui durera toujours. On note au passage, hein, le vocabulaire de Julio De Caro. On voit qu'il a une véritable éducation musicale. Hein.
Oui, tout à fait. La chanteuse Rosita Montemar n'enregistre, elle, qu'après De Caro, en 1927, avec l'orchestre Tipica Victor. La composition de Pugliese est très écrite. Les musiciens de la Tipica Victor sont de très bon niveau, recrutés par cette maison de disques appelée La Victor, uniquement pour des enregistrements. Hein. Et de plus, ils ont sûrement écouté l'enregistrement de De Caro Et pourtant,
on va l'écouter. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord cette rareté, hein, parce que l'enregistrement de la Typica Victor n'est pas forcément très connu. Donc, on va écouter la Typica Victor avec comme chanteuse Rosita Montemar, donc, qui avait chanté dès 1924 ce magnifique tango, dans donc un des tout premiers enregistrements de Recuerdo.
On écoute la Typica Victor.
El ambiente del placer, donde la bohemia y la frágil juventud, aprisionada por el encanto de mujer, se marchitaron en el vaso en barrio, muriendo de ilusión.
Du tango à l'YFM et nous venons d'écouter Typica Victor, Rosita Montemar, Recuerdo 1927. Alors voilà un autre révolutionnaire, hein. Quel génie ce Pugliese d'avoir écrit ce morceau. Recuerdo, c'est une composition exceptionnelle et on fera une émission sur Pugliese comme on vous le disait avant d'écouter ce morceau. C'est plutôt plusieurs en fait qu'on va faire.
Bon, alors continuons un peu notre comparaison, hein. L'objectif vraiment c'est de vous montrer la puissance de Julio De Caro et la façon finalement il révolutionne la composition du tango.
Entre la Guardia Vieja et la...
On passe de cette époque de la Guardia Vieja, de la vieille garde, à la nouvelle garde. Il est vraiment le père de la nouvelle garde. Il va imposer tous ses principes de composition. Là encore, donc cette fois, on vient d'écouter une version de 1927. On va revenir quelques mois auparavant, en 1926, à la fin de l'année 1926, une version du sexteto de Rulio De Caro. Et vous allez voir en comparaison, la version qu'on vient d'écouter de la Typica Victor, elle paraît linéaire, un peu plate, un peu rengaine. Voilà, aujourd'hui, on l'écoute et on se dit « Ah oui, ça sonne un peu vieillot ». C'est un peu comme s'ils avaient manqué l'enchevêtrement des lignes musicales. Pourtant, en le réécoutant, on voit bien que c'est écrit dans la partition. Pugliese, il a tout écrit. Oui. Déjà, il compose de manière extrêmement moderne. Et pourtant, on entend à peine les pizzi des violons dans la version Typica Victor, alors que la version De Caro va détacher chaque jeu d'instrument. Tout est absolument clair. Vous verrez également comment, justement, on entend parfaitement les cordes pincées, la ligne mélodique. Tout bascule d'une tonalité à l'autre immédiatement. Il y a vraiment une maîtrise de ces principes.
Hein. Alors, mais avant cela, avant cette écoute comparative, cher Sylvain, je voulais que vous me précisiez quelque chose. Je regarde sur le site, notre site associatif, www.cascabelito.fr, pour mieux nous connaître et aussi regarder les podcasts qui sont aussi en ligne sur notre site et bien d'autres choses. Et quand on regarde, je vois la photo pour annoncer cette émission. La photo associée était étonnante. Il y a un personnage avec un instrument absolument improbable.
Oui, au départ, c'est vrai qu'on se demande si c'est pas Boris Vian avec une invention. Non, c'est Rulio De Caro avec un instrument absolument improbable, effectivement, un violon à cornet.
Oui.
On l'appelle aussi violon à pavillon ou encore stroviol.
Un très
Alors,
beau nom.
Si vous parlez un jour d'un stroviol comme ça, vous paraîtrez très cultivé. C'est un monsieur Stroh.
Stroh.
Oui,
qui l'a inventé
ouais. Tout à fait. Alors c'est un instrument récent pour l'époque, il a été inventé en 1899. De quoi s'agit-il? C'est un violon sur lequel on a adapté un pavillon pour amplifier le son et donc le projeter dans une direction donnée. C'est un peu comme sur un vieux gramophone, vous savez, on avait ce grand pavillon ou ce grand cornet.
Et ce stroviol a été utilisé pendant quelques années par des orchestres de jazz ou de tango parce qu'il facilitait les prises de son. Les microphones étaient encore rudimentaires et le pavillon du stroviol permettait de diriger le son du violon vers le micro. Rulio De Caro est l'un des musiciens parmi les plus connus ayant joué du stroviol. Voilà, tout est expliqué.
Et oui, j'en parlais avec Armand Gury, donc notre technicien du son
aujourd'hui.
Effectivement, on parlait de cet instrument qui permet de projeter le son vers le micro et donc d'améliorer la captation et l'enregistrement. Alors, l'instrument, le stroviol, est tombé en désuétude avec l'amélioration des microphones. Et donc, quelques années plus tard, même Rulio De Caro n'utilisera plus son stroviol. Et donc, cette photo n'est pas une blague. Hein. C'est bien Rulio De Caro. Vous pouvez aller voir sur notre site, cascabelito.fr. Et vous verrez cette photo avec les différents podcasts de nos émissions, toutes les références, les annonces, et aussi d'ailleurs nos coups de cœur.
Qu'on met à jour à la suite de nos émissions sur Aligre FM ou nos coups de cœur de la semaine, voilà, ce qui nous passe par la tête. Voilà, alors après ce petit détour par le stroviol, dont on voit bien que tout était bien pensé, c'est un détour bien logique, nous vous proposons d'écouter sans attendre la version du sexteto Rulio De Caro, qui interprète Recuerdo, écrit donc par Pugliese, et c'est une interprétation de 1926. On écoute à l'instant. Merci Armand Gury. Thank you. saisissant hein, dans cette version de De Caro. On a vraiment l'impression d'entendre chaque détail de la musique. Vous êtes au cœur du tango, bien sûr.
Et on vient d'écouter Recuerdo. On est donc quelques mois avant la version de la Tipica Victor qu'on avait entendue précédemment. Et là, donc on est fin 1926. Et là, pourtant, vous sentez que l'orchestre de Julio De Caro, il se déploie avec toute la complexité de l'écriture musicale de Pugliese. C'est absolument magnifique. Et on entend vraiment tous les détails qui se développent avec les différentes lignes musicales, avec des forces d'interprétation. On le reconnaît tout de suite. Et on imagine bien la surprise des auditeurs de l'époque hein, qui découvrent ce qu'on va qualifier de tango symphonique.
Oui, l'orchestre de De Caro, cet orchestre va aussi grandement favoriser l'adoption du tango par la bourgeoisie argentine.
Eh bien oui, c'est vrai, parce que la vieille garde, la Guarda Vieira, on l'a dit, c'était une musique de dépravé, c'était des orchestres de rue pour un tango des bals populaires. Alors j'ai mis une musique de dépravé entre guillemets, évidemment, oui. Hein, c'est ce qu'on pouvait en dire dans les milieux chics de Buenos Aires. Mais c'était des orchestres de rue qui jouaient pour des bals populaires, aussi, on l'a dit, pour des maisons closes. Alors, avec Julio De Caro, c'est complètement différent.
Oui, De Caro, d'une certaine manière, va respectabiliser le tango de la Guardia Nueva, dont il est le représentant. Il le fait sur le fond, sa musique est savante, son interprétation est élaborée, on l'a entendu. La bourgeoisie argentine peut se reconnaître dans cette composition qui reprend des codes de la musique classique européenne.
C'est vrai, mais il le fait aussi sur la forme.
Oui, oui, tout à fait. Les musiciens de son orchestre se produisent tous habillés en smoking blanc. Il faut dire que ça en jette. Hein.
Et, oui. Et puis surtout, pour la bourgeoisie, justement, ça rappelle les orchestres symphoniques de musique classique. Hein, ils sont tous en smoking. Alors, pas étonnant d'ailleurs que quand l'orchestre de Julio De Caro arrive à Nice en 1931, puis à Paris, les Français qui le découvrent se demandent d'abord si c'est bien du tango. On est loin du folklore. Hein, des costumes, les voilà qui arrivent en smoking, ils sont un nombre important et on a surtout l'impression qu'ils jouent de la musique presque composée comme de la musique classique, hein. On n'est pas là seulement pour faire danser les foules.
Oui, alors d'ailleurs Julio De Caro disait qu'il composait pour les musiciens avant de s'occuper des danseurs, ça nous rappelle,
ça rappelle
quelqu'un.
Effectivement, bah oui, ça rappelle évidemment le fameux Astor Piazzolla, hein, qui disait que c'est le sourire des musiciens qui lui importait, pas celui des danseurs. Hein, il regardait toujours les musiciens dans la salle. Alors, Julio De Caro et Astor Piazzolla ont quelques points communs. Hein. Oui. En tout cas, Julio De Caro, finalement, connaîtra un grand succès dans sa tournée française. Et je pense que c'est aussi ça qui va l'encourager à pousser encore plus loin son expérience de tango symphonique, comme on l'a appelé.
Oui, entre 1933 et 1940, il va même tenter un orchestre plus important avec des cuivres, des bois, des percussions. C'est l'orchestre Mélodique International. Julio De Caro réalise les arrangements et dirige. C'est du tango joué comme de la musique classique, comme vous l'évoquiez à l'instant, Sylvain Berthaud. Bien sûr, la couleur de l'orchestre n'est pas la même. C'est surprenant et complexe.
Eh oui, c'est complexe parce qu'on ne s'attend pas à trouver tous ces instruments. Quand on a des instruments, des cuivres ou des bois, on va entendre qu'on a un timbre très particulier. Alors, j'ai choisi un tango composé par Eduardo Arolas. Hein, c'est un tango qui est bien connu des danseurs dans de nombreuses versions, notamment encore celle de Pugliese, hein, on y revient toujours. Le titre de ce tango, c'est « Derecho Viero ».«
Droit au but ».«
Droit au but », alors c'est une expression qui est tirée du vocabulaire du droit, du domaine juridique, hein, ça veut dire « le vieux droit ». Mais en fait, dans la musique, on a plutôt la description d'une fête populaire avec des feux d'artifice qui vont s'élever, qui éclatent, qui retombent. Et vous allez découvrir comment cela devient dans les arrangements de Julio De Caro, qui dirige ici en 1936 l'Orchestra Melodica Internacional.
Alors on va écouter tout de suite cette musique, voilà, Derecho Viejo.
Thank you.
Joli, ces craquements. Vous êtes bien sûr à Ligre FM et dans l'émission Au cœur du tango. Nous écoutions à l'instant l'Orchestra Melodica Internacional Derecho Viejo, une version de 1936. Alors on vous invite évidemment à aller sur le site www.aligrefm.org pour écouter en podcast ou pour avoir les références de toutes les émissions de nos très chers collègues qui font eux aussi des émissions magnifiques. Alors Sylvain Berthaud, c'est drôle, hein, c'est ce qu'on vient d'entendre. Hein, un peu déroutant, ce n'est pas forcément le tango auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Hein.
Bah oui, mais ça montre bien, alors on a parcouru effectivement l'itinéraire de Rulio de Caro et on voit bien jusqu'où il a pu aller. Hein, c'est aussi ça la révolution descarienne, c'est-à-dire il a transformé finalement, c'était une musique de bastringue hein, finalement, dans un art respectable. Là, on a vraiment quasiment un orchestre symphonique en face de nous.
Oui, il introduit d'abord une véritable polyphonie, les instruments jouent alternativement la mélodie avec un schéma et des arrangements déterminés à l'avance.
Oui, et puis on voit bien comment il fait appel à des principes de composition, hein, d'harmonie tonale, de contrepoint.
Et la place est donnée aux spécificités des instruments. Et on voit bien qu'elle est bien plus importante, cette place, que dans la Guarda Vieja. Hein.
Tout à fait. Il a introduit des nouveaux instruments, il expérimente, il joue même à incorporer des bruits dans ses compositions. Hein, dans une autre version de Derecho Viejo, vous pourrez entendre effectivement des bruits de fusée. On l'a entendu au début de l'émission, des sifflets, des rires, des cris, même dans El Monito, hein, typiquement.
Oui, la voix n'est d'ailleurs pour lui qu'un instrument parmi d'autres. Quand il a un chanteur, il ne le met pas particulièrement en avant. Il lui donne simplement une place parmi l'orchestre.
Oui, et puis il exige aussi de ses musiciens une grande capacité d'interprétation. Alors là, on vient de l'entendre, c'était particulièrement spectaculaire dans ce dernier morceau. Il va exploiter au maximum les possibilités de chaque instrument, des pizzicando, des glissando, des arrastres sur les bandes de néon. En même temps, il s'inspire du jazz, c'est-à-dire il va aussi demander aux musiciens de faire parfois un passage en solo, puis d'accompagner les autres. Et puis, chez De Caro, on voit aussi un grand changement, c'est la complexité des cadences. Donc il va mettre en évidence certaines suspensions, certaines syncopes, il va arrêter en fait de jouer systématiquement les traditionnels temps forts qu'on apprend en solfège, hein, où on tape fort sur le 1 et sur le 3. Oui. Lui, il va jouer sur des cadences plus complexes.
Alors tout cela fonde ce qu'on a déjà appelé peu avant dans l'émission La Guardia Nueva et va nous conduire à l'âge d'or des années 40-55 avec les grandes formations de tango et ces incroyables créations qu'on adore et sur lesquelles on reviendra.
Les plus grands, les plus grands orchestres, les plus grands musiciens vont se réclamer de Rulio de Caro. Alors on va en citer quelques-uns, on pense évidemment à Carlos Di Sarli, Horacio Salgan, Aníbal Troilo, l'immense Aníbal Troilo et Pedro Lorenz.
Oui, mais surtout, et on l'a déjà dit, Osvaldo Pugliese et Astor Piazzolla, qui sont les héritiers de De Caro, n'est-ce pas ?
Bah, tout à fait. C'est De Caro, Pugliese, Piazzolla, ce sont avant tout d'incroyables compositeurs chercheurs finalement. Toujours, ils sont toujours à vouloir faire évoluer leur musique, à bouger les cadences, les couleurs, l'écriture, à jouer sur ces polyphonies, sur les contrepoints. Et d'ailleurs, Astor Piazzolla a exprimé toute sa dette envers Julio De Caro. Il a composé un morceau absolument magnifique qui s'appelle De Carissimo. De Carissimo, c'est vraiment son hommage à la musique de Julio De Caro. C'est un thème absolument superbe qu'il a enregistré plusieurs fois. Il y a une multitude de versions. Et donc, je me suis dit que ça serait magnifique pour terminer cette émission. Donc, vous verrez dans ce morceau combien les principes de De Caro sont déjà à la base des recherches d'Astor Piazzolla. Et pour l'illustrer, j'ai choisi une version live avec son Quinteto Tango Nuevo. C'est un concert à Utrecht en 1984.
Et voilà. Donc, on va se quitter avec ce magnifique morceau. J'espère que cette petite heure vous aura permis, chers auditrices et auditeurs, de saisir comment Julio et Francisco De Caro ont révolutionné le tango. À la semaine prochaine sur Aligre FM. Merci.
Aligre FM 93.1.